Monsieur Loubé, je trouve votre exercice sympathique et bien intentionné, c'est évident. Je précise que je ne tiens pas le crayon des journalistes, ils écrivent ce qu'ils veulent. C'est leur liberté. Peut-être me suis-je mal exprimé, parfois ça arrive. Ou peut-être ai-je été mal compris, ça arrive aussi. Mais quand on m'interroge sur des projets qui sont dans le projet de territoire et qu'on me dit « ça va représenter l'investissement de quel ordre ?» Bien sûr qu'on a une petite idée quand même. Bien sûr qu'on a une petite idée. Et quand je dis que cela représentera un investissement de 35 à 40 millions sur les 5 ou 6 années qui viennent, c'est en vertu d'évaluations qui ont été faites à la louche, bien évidemment. Mais ce seront les études qui vont être engagées à partir du mois de janvier, faisabilité, d'opportunités de financement, qui nous diront exactement quels seront les coûts de ces divers investissements, ce qui peut très bien nous amener d'ailleurs à dire, compte tenu du coût, il y en a certains qu'on va reporter à plus tard. N'empêche que, oui, quand on lance des projets comme cela, il faut bien avoir une petite idée de ce que cela va représenter. Ou alors, on est dans les nuages et on va lancer n'importe quoi comme idée. Si imaginer qu'on ait lancé des idées dont le coût serait de l'ordre de 100 millions, ce serait absurde. Il a bien fallu qu'on essaie de voir quel serait à peu près le montant de l'investissement. Alors, je vous signale que vous avez évalué l'investissement annuel à 5 millions, si on tient compte des subventions de 30%, et nous aurons vraisemblablement sur certains de ces projets bien plus parce qu'on s'inscrit exactement dans les trajectoires que le Conseil régional a fixées. Si on s'inscrit, donc si on évalue l'investissement avec 30% de subvention, ça veut dire qu'on pourra investir 7 millions, dont 5 à notre charge. C'est 30% d'investissement. Et 7 millions sur 5 ans ou 6 ans, ben ça fait entre 35 et 40 millions. Voilà l'explication. Ensuite, il se peut très bien que quand les études auront abouti, on s'aperçoive qu'il y a des investissements qui vont coûter bien plus cher que ce qu'on a pu évaluer. Je le dis, auquel cas, nous déciderons ensemble des priorités que nous définirons. Je ne me souviens pas d'avoir eu un tel débat entre 2014 et 2016 au Grand Art. Effectivement, il n'y avait aucun investissement. Alors la question ne se posait pas. La question ne se posait pas. Quand j'entends les bons conseils donnés par certains, il faut tout faire pour l'emploi, l'emploi, l'emploi. C'est facile de dire ça. D'abord, ce n'est pas nous qui créons les emplois. C'est nous qui devons mettre en œuvre tous les moyens pour que les entreprises viennent s'installer chez nous. Et ça, nous sommes en train de le faire. Quand, par exemple, on a, avec le président Jacques Garraud, accordé 450 000 euros de fonds de concours aux communes, cela a généré 6 millions d'investissements dans toutes les communes qui ont bénéficié de ces 450 000 euros. Est-ce que les 6 millions d'investissements, ça n'a pas contribué au maintien ou au développement d'emplois dans les entreprises qui ont effectué ou qui vont effectuer les travaux? Quand on regarde le projet de territoire qui vous a été proposé, d'agglomération, il a bien été précisé que l'ensemble des projets s'inscrivait dans une seule trajectoire, le développement économique. Quand on parle d'un parc d'attractivité, je dis bien d'attractivité, comme universel sur le site de l'aéroport, c'est évident que si demain il y a 30 ou 40 000 personnes qui y viennent, cela va contribuer au développement de nos territoires, ça va contribuer au développement d'activités économiques. Alors je vais revenir à ce que a bien voulu dire M. Loubé. Il a dit, on a voté le projet d'agglomération. Je rappelle que la délibération que je vous ai soumise, elle prévoyait que nous nous engagions sur les études d'opportunité, de faisabilité, de financement. Et je reviens à dire de nouveau ce que j'ai dit à l'instant, si ces études démontrent qu'il y a des projets qui ne sont pas réalistes ou réalisables, on en prendra acte, on en tiendra compte. Alors, il me semble qu'à l'unanimité, il a bien été décidé que ces études seraient engagées. Et nous verrons à l'issue de ces études, c'est bien ce qui a été dit le 30 novembre, à l'issue des études, nous verrons quels sont les projets qui sont réalisés en priorité. J'ai dit que le 313 était le projet prioritaire. Pourquoi ? Parce qu'il est engagé. Et ça a été voté ici lors d'un bureau dont je n'ai plus la date, en septembre, je crois, ou en juin, en septembre. Qu'il est dans les tuyaux, que l'appel à concurrence pour la maîtrise d'œuvre a été lancé. Donc, normalement, il est en avance par rapport aux autres. Il y en a un que ça m'étonne que monsieur ne voulait pas citer, c'est la médiathèque. Hein. Le projet de médiathèque, il y a une étude qui a été engagée par le Grand Arbre en 2016. Je cherche Madame Hisson sous sa responsabilité. Aussi, l'étude, elle est bien avancée par rapport aux autres quatre projets pour lesquels les études vont être faites. Ah, eh bien, oui, il y aura de l'avance. Mais comme je ne veux pas que tout se fasse à Tarbes en même temps, j'ai dit Tarbes d'abord 313, puis ensuite un projet sur le pôle centre, un autre sur le pôle sud. C'est ce que j'appelle, moi... l'investissement équitable sur le territoire. Ça me semble logique. Ensuite, je voudrais dire que, comme je l'ai souligné, les investissements qui sont proposés et qui sont des investissements qui vont contribuer à la dynamique de notre territoire, donc au développement économique, ces investissements... J'ai prévu qu'ils se réaliseraient si les études démontrent qu'ils sont réalisables sur 5 ou 6 ans. Ce qui veut dire qu'une nouvelle fois, à partir de 2020, 20 vraisemblablement, eh bien, ceux qui éventuellement me succéderont feront ce qu'ils voudront. Ils pourront refaire ce qu'ils ont fait déjà en 2014 au Grand Arbre. C'est-à-dire que les projets qui seront engagés dans les tuyaux, ils seront abandonnés. Même si on jette 500 000 euros par les fenêtres et si on perd 3,5 millions de subventions. Et là, c'est vous qui déciderez. C'est vous qui déciderez. Il faut avoir un peu de mémoire avant de se lancer dans des critiques un peu acerbes. Alors, monsieur Lagonel considère que le projet d'agglomération va être générateur de charges et pas de recettes. Ce discours, on l'a entendu quand, au Grand Arbre, vous avez décidé, et vous avez applaudi, M. Lagonel, de mettre un terme au 313. Il y aura des recettes, il y aura des dépenses, comme dans tout projet structurant. Et ce qui compte, c'est de tenir compte que dans les recettes, il y aura des recettes directes qui seront encaissées par nos communautés d'agglomération. Il y aura des recettes induites qui serviront le territoire, les hôtels, les restaurants, les commerces, etc. Et les entreprises qui travailleront. Les propositions pour l'emploi, je suis prêt à recevoir les vôtres. C'est facile de critiquer, c'est plus difficile de proposer. Donc je suis prêt à recevoir vos propositions. Si vous avez des propositions pour qu'on s'engage davantage pour favoriser l'emploi que nous le faisons, que nous allons le faire, comme je viens d'évoquer, vos propositions seront bienvenues. Les piscines. Les piscines, oui, c'est un investissement important que ce que nous vous proposons pour Paul Boiry. C'est une piscine qui a plus de 30 ans, même pas loin de 40, et que quand on me dit qu'il y a des fuites au bassin, il y a deux solutions. On me dit, bah, tant pis, il y a des fuites. Ou alors... on rénove. Et effectivement, la rénovation du bassin va coûter 800 exemplaires. On passerait, franchement. Ce sont des investissements qui vont être réalisés en 2018. L'avenir de la piscine Michel Roller, il y a des discussions qui ont été engagées avec Madame le maire de Séméa. Il y a des projets qui sont à l'étude. On a rencontré, je pense que Madame le maire les a rencontrés aussi, des personnes qui sont prêtes à nous faire des propositions. mais nous aviserons le moment venu. Monsieur Montoya et Monsieur Sevilla, la taxe GEMAPI, je demandais à Monsieur Pirot de m'apporter davantage de précisions, mais ce que nous trouvons en recettes et en dépenses, c'est une évaluation. C'est une évaluation. Alors, vous demandez quelles sont les dépenses qui sont financées par cette taxe. Mais je ne peux pas vous répondre aujourd'hui. Je ne peux pas vous répondre. Ce sont des dépenses qui vont être bien évidemment étudiées dans les prochaines semaines et prochains mois, et qui ont pour objectif d'assurer une meilleure gestion des eaux et une meilleure protection des risques. Jean-Claude Piron va en parler, de même que je souhaite qu'il réponde également à M. Sevilla qui demande s'il y aura une double peine finalement entre les communes qui payaient déjà à un syndicat et qui demain vont payer la taxe GEMAPI. Nous allons, et c'est ma volonté, je vous le dis, tout mettre en œuvre pour qu'il n'y ait pas de double peine. Et je vous ferai des propositions qui ne sont vraisemblablement pas accueillies par tout le monde favorablement, mais dont l'objectif sera de faire jouer la solidarité pour qu'il n'y ait pas de double peine. Jean-Claude Piron, je te passerai la parole après pour que tu reviennes sur la GEMAPI. Monsieur Dubarry, vous avez noté une augmentation de la fiscalité. C'est exact, mais l'augmentation qu'on a prévue dans le budget, elle correspond à la variation des bases exclusivement. Il n'y a aucune décision de notre part d'augmenter la fiscalité. C'est l'augmentation des bases que l'on a évaluées, et on les a évaluées à minima, puisque on les a évaluées à plus 0,5, et que vraisemblablement, elles seront supérieures à 1.
C'est ce que j'ai dit, monsieur le président.
Pardon ?
C'est ce que j'ai dit.
Eh bien, je confirme ce que vous avez dit et imaginé. Et la seule variation est là, mais j'ajoute qu'il n'y a aucune augmentation de la fiscalité de notre part. Monsieur...
Vous ne répondez pas à ma question, monsieur le président.
Pardon ?
Je m'excuse, mais vous ne répondez pas à ma question. Vous ne répondez pas à ma question.
Quelle est la question ?
La question, elle est que puisqu'il y a 450 000 euros de plus... de prélèvement, enfin d'impôt, perte de recettes, est-ce qu'on ne peut pas mettre une partie de ces 450 000 euros dans les fonds de concours, puisque vous avez vous-même reconnu que 450 000 euros de travaux l'an passé avaient généré 6 millions pour les entreprises. Donc si on met 900 000 euros, ça générera 12 millions pour les entreprises, ce qui serait de bonnes choses. Merci.
Nous verrons, parce que je voudrais vous dire que pour l'instant, et je pars sous contrôle de Jacques Garot, pour l'instant, tous les projets qui ont été présentés, qui ont sollicité un fonds de concours, ont été satisfaits. Plus de 40 communes ont bénéficié du fonds de concours. Nous avons inscrit la même somme dans le budget 2018. Pourquoi ? Et parce que dans les 40 communes qui ont été servies, il a été écrit dans notre projet de fonds de concours, dans la charte, que les communes qui étaient servies l'année ne seraient pas servies l'année suivante. C'est tous les deux ans. Et que donc, remettant 450 000 euros, il y a encore 40 communes qui pourront, moins de 40 communes qui pourront être servies. Mais je vais vous dire, Michel Dubarry, que si ça vous intéresse de m'écouter...
Oui, je vous écoute.
Oui, non, mais je vois que M. Kraspa, il vous distrait. Si demain, on le verra avec Jacques Garot et la commission ad hoc, si demain il y a des projets à financer dans les communes et que les besoins excèdent les 450 000 euros, et je vous dis tout de suite que je proposerai en décision modificative d'abonder le fonds de concours en fonction des besoins. Pas de problème. Parce que effectivement, mon souci c'est d'aider les communes dans leur projet d'investissement et en même temps de donner du travail aux entreprises. François Rodriguez, lui. Excusez-moi, François Rodriguez, il signale qu'il y a une augmentation des dépenses de fonctionnement. Voilà, François, j'aimerais bien que vous me disiez comment vous avez fait pour voir qu'il y avait une augmentation des dépenses de fonctionnement, parce qu'on n'a pas d'éléments de comparaison. Allez-y.
Oui, c'est une baisse des dépenses de fonctionnement, et
Il y a un reliquat que vous souhaitez passer sur l'investissement de 4 977 430 €. Alors, je pensais que cette baisse se traduisait peut-être aussi dans le fait que la communauté d'agglomération de Lourdes avait récupéré peut-être du personnel et ne rentrait plus dans cette baisse, et que le solde positif qui reste d'autofinancement, c'est précisé comme ça, à l'article, à l'annexe 1B en bas de la page 4, où il y a ces 4 977 430 €.
Nous verrons ce que nous ferons de notre épargne brute le moment venu. Il est très vraisemblable, comme d'ailleurs vous le verrez en 2017, nous n'avons pas mobilisé les emprunts que nous avions prévu de mobiliser pour financer les investissements qui ont été réalisés. Nous aviserons le moment venu en fonction des besoins, comme je viens de le dire pour les fonds communs. Même chose pour d'autres projets qui pourront être financés sur l'épargne disponible. Pas de problème. Je veux dire, le budget, c'est pas quelque chose de figé. C'est un cadre, c'est le noyau dur d'un cadre que l'on présente, qui nous trace un chemin, mais durant le cheminement, on peut très bien être amené à modifier le trajet en fonction des nécessités, en fonction des opportunités, en fonction des priorités qui pourraient apparaître, ou des besoins qui pourraient apparaître durant le déroulement de l'exercice budgétaire. Donc, je vous rassure. Voilà, mes chers amis, les réponses que j'ai voulu apporter à vos interventions. Je ne souhaite pas qu'il y ait des allers-retours permanents. Je ne souhaite pas. Allez-y.
Sur le gouvernement intérieur m'autorise deux prises de parole, après j'arrêterai. Pas de souci. Non, mais c'est un débat, je crois qu'on peut débattre sereinement et tranquillement. Je reviens sur deux choses parce que vous n'avez pas répondu à ma question. Je m'inquiétais, je disais il ne faut pas négliger l'existant par rapport aux propositions du projet d'agglomération, et je parlais des piscines. Bon, malheureusement, vous ne m'avez pas répondu. Vous avez répondu, on verra le moment venu, c'est un peu comme combien de temps le fil du canon pour refroidir un certain temps. Mon souci, c'est qu'il faudrait régler prioritairement cette question des piscines, peut-être avant de rentrer dans notre projet, parce que c'est quelque chose d'important. Je rappelle que les piscines, ce sont des milliers de licenciés, des milliers d'usagers, et les piscines, ça pèse beaucoup plus que n'importe quel autre des 6 autres projets. Voilà, donc je mets le doigt là-dessus parce que je pense que c'est vraiment important qu'on règle ça. Il y a des études qui ont été lancées au niveau du Grand Arbre il y a déjà 2 ans ou 3 ans, donc on a vraiment tous les éléments financiers et techniques, mais il faut trancher. Voilà. Ensuite, je reviens sur une contre-vérité que vous avez dite. Moi, je suis très partisan du bâtiment 313. Non, ne me faites pas dire que je suis opposé au bâtiment 313. Le bâtiment 313, si vous aviez été efficace, Monsieur Trémège, il serait fait depuis 2012 ou 2013. En 2014, le Grand Arbre manquait de ressources, et pour faire le bâtiment 313, je l'explique pour les conseillers communautaires qui n'étaient pas au Grand Arbre, il fallait augmenter la fiscalité de 7%. C'est pour ça qu'il a été décidé de suspendre cette réalisation. Donc s'il vous plaît,
soyez sérieux.
Ne changez pas.
Je suis sérieux, ne me coupez pas.
Soyez sérieux vous-même, ne me coupez pas, s'il vous plaît. Sinon, je vais être obligé de reprendre la parole. Donc, si le Grand Arbre n'a pas fait le 313 en 2014 et 2015, c'est pour des raisons fiscales. Aujourd'hui, si l'agglomération a les moyens de faire ce projet, vous m'aurez à vos côtés pour le réaliser. C'est un projet qui me tient énormément à cœur. Voilà, je voulais rétablir ce point de vérité.
Bien, puisque vous parlez d'efficacité, alors permettez-moi de vous dire que puisque vous étiez favorable à ce projet à l'époque, vous avez quand même voté contre sa poursuite, et vous venez de dire que c'est pour des raisons fiscales, ce qui est d'une absurdité incroyable. Et la suite des résultats du Grand Arbre a bien démontré que nous avions les moyens de le faire. Au cas où vous auriez oublié, nous avons dégagé au Grand Arbre plus de 5 millions d'épargne nette, on avait vraiment les moyens de faire face à l'investissement qui était engagé. Je rappelle qu'on a balancé 500 000 euros par les fenêtres en payant un architecte pour rien, puisque le permis de construire était prêt à être déposé. Tout ça a été balancé et qu'on a perdu 3,5 millions de subventions. Il faut relancer le dispositif. Alors, les leçons faciles. Pour les piscines, on s'est engagé, s'il vous plaît. Pour les piscines, je redis ce que j'ai dit. Nous avons inscrit dans le budget 2018 1 300 000 euros. Et quand les travaux auront été faits en 2018, eh bien, il n'y aura pas à inscrire en 2019 ni en 2020 des sommes aussi importantes pour nos piscines. Donc c'est un investissement qui n'est pas un investissement récurrent. C'est un investissement ponctuel qui est à réaliser aujourd'hui parce qu'il y a une fuite du bassin Paul-Boiry. Point final. Et donc, je vais même vous dire que si on est capable de mettre en 2018 1 800 000 euros pour le financement des travaux sur la piscine Paul-Boiry, ça veut dire que 2019, on sera capable de mettre 1 800 000 euros pour financer un des investissements qui aura été validé dans le cadre des études qui nous seront rendues sur le projet d'agglomération. Voilà.
Bon, vous faites semblant de ne pas comprendre ma question, mais d'accord.
Est-ce que quelqu'un d'autre demande la parole? Monsieur Yigayanou.
Oui, monsieur le Président. Juste pour revenir dans le cadre des effectifs, je voudrais savoir si on a des emplois aidés. Quand on sait ce qu'il leur est réservé en 2018, j'aimerais qu'on fasse le point sur le sujet.
Bien, je ne peux pas vous répondre maintenant. Vous aurez le bilan social qui sera, mais je vais vous donner quelques éléments, le bilan social complet de notre agglomération vous sera présenté avec le compte administratif. Donc, en juin, vraisemblablement. Néanmoins, voilà. Nous avions, nous, 4 contrats aidés jusqu'à présent. 4. Et ils ont été renouvelés. Ils ont été renouvelés pour l'instant, ceux-là. Est-ce que le président Fénier va ajouter quelque chose aux précisions que j'ai données?
Absolument pas.
Merci, monsieur le président. Je vais donc... Ah oui, Jean-Claude, alors la Gemapi, je t'attends là.
Oui, bonsoir tout le monde. Non, la Gemapi, on pensait en parler au point numéro 20, puisqu'en fait, simplement là, si on doit parler de financement, à l'heure actuelle, le financement, ce qu'il faut, on a le choix, effectivement, par rapport aux attributions de compensation, soit on part du principe que c'est une nouvelle taxe, nouvelle compétence, donc on part d'une feuille blanche, effectivement, on ne touche pas à vos attributions de compensation. Soit on estime au contraire que, à partir du moment où les communes, on va avoir le problème avec les communes qui, en fait, n'adhéraient pas à un syndicat. Parce que pour elles, elles peuvent considérer que si vous adhérez à un syndicat, c'est que vous avez un intérêt à le faire. Par exemple, vous, c'est syndiqué, vous payez 883 euros au SMGA, effectivement. Mais on peut estimer que c'est parce que vous êtes concerné directement par la protection qu'offre un syndicat. Et donc, eux, ils pourraient estimer, effectivement, c'est connu, ils pourraient estimer que vous adhériez parce que vous aviez un intérêt. Et que donc, c'est normal également que vous payiez plus que les communes qui n'adhéraient pas. On a regardé un petit peu, on est allé voir quelles étaient les communes qui n'adhéraient pas. On s'est bien rendu compte que souvent, si elles n'adhéraient pas, c'était plutôt par méconnaissance, par désintérêt peut-être, par rapport au problème des inondations, parce que bien souvent, on n'a pas sur la communauté de communes qui n'aient pas de problème d'eau. Voilà, ça n'existe pas. Donc en fait, ne pas adhérer à un syndicat, ce n'était peut-être pas une très bonne chose. On a déjà parlé de ce qui s'est passé avec les problèmes sur l'état de l'échelle, etc., des communes qui n'adhéraient pas et qui n'étaient pas dans le cadre du SMGA et qui auraient dû l'être. La décision, monsieur le Président vous l'a dit, on va en parler, on discutera très certainement qu'elle sera prise le 31. Nous étions hier en préfecture, je vous en parlerai peut-être tout à l'heure. On a eu une réunion qui a été un point de passage très important par rapport à la GEMAPI, mais je vous en dirai quelques mots tout à l'heure. Toutes les communautés de communes étaient présentes hier soir en préfecture, donc 16 qui sont concernées directement pour notre projet. À l'heure actuelle, les 12 euros, c'est parce que ça fait peur à beaucoup de monde dans le comité de pilotage, les 12 euros, c'est complètement, monsieur le Président vous l'a dit, c'est totalement aléatoire. Totalement aléatoire. On sait par exemple que la CCPL va réclamer 20 euros par habitant. Mais ça ne veut rien dire, 20 euros par habitant, on est bien d'accord que c'est un produit attendu à partir des 4 taxes, etc. Et là, on est parti sur 1,5 million, nous. Et en fait, si on fait le total de toutes vos cotisations, on est à peu près à 700 000 euros, pas plus. Donc en fait, 1,5 million, c'est très largement surévalué, donc ça sera certainement moins. Parce qu'on va partir sur 2008 avec un système d'entente qui fait qu'en fait, toutes les communes, en gros, seront couvertes soit par la SMGA, c'est-à-dire le syndicat mixte de gestion de la Dour, soit par la Haute-Bigorre, soit pour le troisième, c'est l'Ors. Voilà. Et donc, en fait, on va partir sur un système d'entente. Il n'y aura pas de travaux l'an prochain, sauf ceux qui sont déjà programmés, bien entendu, mais sinon, il n'y aura pas de travaux. Et donc, on devrait être sur quelque chose de beaucoup plus contraint. Une chose est sûre, c'est qu'on a discuté avec, pour vous parler, ça fait quand même 10 mois qu'on parle de cette GEMAPI, les présidents des trois plus grosses, on va dire, communautés de communes et la communauté d'Agglo sont tous d'accord pour dire que on va essayer de faire ça à minima. On est bien d'accord, on est tous conscients que les populations sont impactées, qu'on ne va pas leur rajouter encore une chose et qu'on fera ce qu'on doit faire, mais qu'on n'ira pas au-delà. Il n'est pas question de faire des travaux pharaoniques qui ne seraient pas absolument nécessaires. Voilà. Et ensuite, la dernière chose, c'est que le futur syndicat qu'on va créer sur la Dour, ce syndicat unique, donc qui ira des sources de la Dour jusqu'à Barcelone-Gers, il est à construire complètement en 2018. Là, pour l'instant, c'est qu'un point de passage. On a décidé de le faire. L'engagement a été pris hier soir, en préfecture, par l'ensemble des présidents. Donc, on va le faire. Mais tout le travail va se faire et tout le monde sera invité à travailler dans un groupe de travail qu'on va créer à partir de janvier 2018 pour tout travailler au niveau de la... Déjà des finances, bien entendu. Savoir jusqu'où va la solidarité. Voilà. Est-ce que quelqu'un risque de payer plus cher que quelqu'un campant ou pas? Voilà. Tout ça, ça va être débattu. Mais également la représentativité, bien entendu, et le territoire. Voilà. Et tout ça, ça va être fait à partir de janvier, là maintenant, on va se mettre au travail. Voilà.
Alors, Rémi, et ensuite,
juste Jean-Claude, si je peux me permettre, il y a 15 communes dans la communauté des communes qui ne sont pas concernées et répertoriées par la préfecture comme zone à risque.
Oui, sauf que dans le GEMAPI, maintenant, il y a le pluvial également. Et voilà. Alors je sais que toi, tu as un cas très particulier, parce qu'a priori, vous ne buvez que du verre, il n'y a pas d'eau chez toi.
Mais non, des Montignac, il faut être fort.
Il
hein.
Y a quand même des problèmes d'eau.
Maintenant, Ricard.
Oui, merci. Donc c'est vrai que pour 2018, moi, si j'ai un petit peu compris tout ce qui a été dit sur la GEMAPI, oui, c'est vrai que nous, on cotise déjà pour un syndicat. Et puis, il va y avoir cette fameuse taxe à l'habitant. Donc, pour ces communes comme les nôtres, par exemple, j'ai l'impression qu'on va quand même payer deux fois. Moi, j'ai fait un petit calcul bref pour Orinsan, petite commune, d'environ 800 habitants. Donc, entre la cotisation du syndicat qu'on va payer, plus la taxe qui va être payée à l'habitant, ça représente plus de 12 000 euros pour une petite commune comme ça. Donc, c'est un exemple que je voulais donner. Et c'est là que nous, on ressemble cette double pénalité.
Madame Ricard, je suis très contrarié. Mais alors vraiment, je suis mortifié. Parce que tout à l'heure, j'ai dit que nous ferions tout pour qu'il n'y ait pas de double peine. C'est-à-dire que vous ne continuiez pas à payer les cotisations que vous payez, plus à GEMAPI. Et j'ai même dit, ça fera l'objet de propositions ultérieures. Aujourd'hui, on y travaille avec Pierrot, avec Jean-Luc, avec toutes les personnes concernées. Et j'ai même dit tout à l'heure, il faudra que l'esprit communautaire et la solidarité jouent. Mais nous ferons tout pour qu'il n'y ait pas de double peine.
Monsieur Trémel,
et vous, j'ai vraiment pas envie de faire de la peine.
Non mais, j'avais compris, parce qu'à la dernière réunion, vous en aviez déjà parlé de ce projet de solidarité. Ça, j'en avais tenu compte. Moi, si je voulais préciser ça, c'est dans l'espoir, effectivement, qu'on va travailler dans ce sens-là. J'ai bien entendu ce que vous avez dit tout à l'heure.
Je suis fort aisé. Qui souhaite intervenir encore? Bon, je vais vous demander maintenant, concernant le vote du budget principal, de bien vouloir vous prononcer. Ceux qui désirent s'abstenir...